Radio Aggressive Dawn es la mejor radio de los Alpes y puedes escucharla en el 87.8 o en el 89.
Maintenant, direction Bivier, où nous allons visiter le château d'Abel Servien avec son heureux propriétaire Augustin Jacquemont. Bonjour Augustin.
Oui, bonjour Malika.
Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Grésivaudan. Donc, le château de Servien, comme on peut le deviner, a abrité Abel Servien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel il est né en le 1er novembre 1593 ?
Écoutez, je ne suis pas historien de formation, mais je vous dirai donc de mémoire que Abel Servien est effectivement né en 1593 d'une famille de noblesse de robe relativement ancienne et qu'il a eu une carrière absolument extraordinaire qui ont fait de lui l'un des principaux, sinon le principal homme d'État d'origine dauphinoise. Donc, comme vous le disiez, il est né au château de Bivier, dénommé alors château Servien, en 1593, et il a très jeune démarré comme procureur général au Parlement de Grenoble, de 1616 à 1624, puis il occupait la fonction de maître des requêtes à l'hôtel du roi, puis intendant de justice et police en Guyenne, de 1624 à 1629, enfin je déroule son parcours mais qui était absolument extraordinaire, de 1629 à 1633, il était secrétaire d'État à la guerre, et il a rencontré Mazarin, avec lequel il se lie d'amitié, et il l'introduit auprès de Louis XIII et Richelieu.
Rien que ça.
Bon, rien que cela, n'est-ce pas? Alors de 1636 à 1643, il a connu une période de disgrâce dont les modalités sont trop compliquées pour être exposées en direct, et il a été envoyé, disons, après la mort de Louis XIII et de Richelieu. Bon, Mazarin a été appelé par Anne d'Autriche pour gouverner la France, et Mazarin l'a envoyé à Münster en 1644 pour y négocier et puis signer les fameux traités de Westphalie qui ont mis fin à la guerre de 30 ans.
Et oui.
Voilà, c'est une période extrêmement importante de l'histoire de l'Europe, qui a concerné pratiquement tous les pays sauf l'Angleterre et la Russie, et qui a marqué la naissance de l'Europe moderne.
Oui.
Ensuite, il est revenu, ces traités ont été signés à Münster pour les catholiques en 1648, et il est revenu ensuite à Paris, et de 1649 à 1653, voyez-vous, j'ai bien appris la leçon, c'était le principal antifrondeur. Il a gouverné le royaume en l'absence du cardinal Mazarin avec la régente Anne d'Autriche, son neveu Hugues de Lyonne, que les Grenoblois connaissent bien parce qu'il y a une rue de Lyonne à Grenoble, et son rival Michel Le Tellier, qui était le père de Louvois. De 1653 à 1659, il a été nommé surintendant des finances, fonction qu'il a exercée conjointement avec Nicolas Fouquet, qui était de 22 ans son cadet. Et il est décédé en février 1659 au château de Meudon, qu'il avait acheté 5 ans plus tôt, et magnifiquement embelli, tout en se séparant du château Servien et de tous ses intérêts dauphinois. Voilà, voilà brillamment résumé cette carrière extraordinaire et qui fait que vraiment Servien doit être reconnu comme un très grand homme d'État et qui devrait avoir toute sa place dans le panthéon des grands hommes du XVIIe siècle.
Oui,
voilà.
Parce que vous dites il devrait, parce que finalement il a été un petit peu injustement oublié.
Ah mais non pas un petit peu, complètement tombé dans l'oubli, ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait hallucinant.
Et oui, comment se fait-il?
Écoutez, parce que vous savez, l'histoire est largement conditionnée par l'environnement de l'époque, et à l'époque, c'était le conflit, c'était la disgrâce de Fouquet, et tout ce qui évoquait l'environnement de Fouquet, a été un petit peu effacé d'histoire, Nicolas Fouquet, et Servien par ailleurs n'a pas eu de descendants.
À la
différence de Colbert, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a eu personne pour, assurer sa survie historique, si je puis dire.
Et voilà. Oui, donc juste au niveau de la lignée, quoi, finalement.
Exactement, mais il n'en demeure pas moins, donc ce qui me paraît tout à fait étonnant, c'est que vraiment cet immense personnage est complètement tombé dans l'oubli.
Mais...
Et moi-même, donc, en tant que modeste propriétaire de son lieu de naissance, je me suis fait, pas une obligation, mais un très grand intérêt de lui redonner vie et de l'extraire des oubliettes de l'histoire, si je puis dire.
Oui, parce que finalement, alors, Abel Servien, il est né dans ce château, mais il n'a pas habité si longtemps que ça, j'imagine.
Ah non, non, écoutez, alors là, vous savez, moi, j'en suis au tout début de recherches qui pourront s'avérer fructueuses. En fait, ce château Servien a été acheté par le trisaïeul d'Abel Servien, un certain Jean Servien, qui en fait a épousé une demoiselle dénommée Catherine de Morard d'Ars. C'était une branche cadette de la famille d'Ars, qui était bien connue à l'époque. Hein. Je vous rappelle l'existence de la tour d'Ars au-dessus de Saint-Imier. Et il y a donc eu 4 générations de Serviens qui ont habité cette propriété, cette demeure, hein, qui à l'origine était une maison forte et qui a été transformée à la fin du 15e en résidence d'agrément. Parce que Bivier, quand même, était extrêmement attirant pour les gens de Grenoble. Bivier, d'ailleurs, qui à l'époque comptait peut-être 400 habitants, comptait 3 châteaux. Le château de Montbive, tout en haut de Bivier, le château de Franquières, qui a été construit dans les années 1610-1620, et le château Servien, lui, qui était une maison forte très ancienne, remontant sans doute au XIIIe siècle, et qui était transformée en résidence d'agrément, comme je vous l'ai dit, à partir du début du XVIe. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Jean Servien a épousé Catherine de Morard d'Ars.
Oui, parce voilà. Que du coup, à la base...
Oui, donc c'est resté dans les mains de la famille Servien de 1500 à 1655, donc 155 ans, ce qui est quand même une durée assez longue. Mm-hmm. Hein. Ça a été ensuite racheté par un Gonzague, sauf erreur, Gonzague de Reynold, le prénom je ne suis pas sûr, qui était un garde suisse qui en fait commandait Fort Barreau, et c'est resté près d'un siècle entre les mains de cette famille de Reynold, et ensuite c'est passé de main en main et ça a été acheté par un de mes trisaïeux, Alphonse Rallet, en 1655, ce qui fait que ma famille y est depuis plus de 160 ans, hein, ce qui fait un bail. ça durera ce que cela durera.
Hein. C'est vrai.
Je ne préjuge pas l'avenir, ce n'est pas évident. Hein,
et parce que, quant à son origine moyenâgeuse, du coup, est-ce qu'on a un peu plus d'informations à ce niveau-là?
Ben, écoutez, moi-même, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, si je puis dire. Hein. Témoigne de l'ancienneté de l'ensemble des gros œuvres, la présence de meurtrières qui ont été mises à jour sur les 2 tourelles de façade et qui sont maintenues. Sinon, à l'arrière, il y a des fenêtres à meneaux, il y a une porte principale avec un linteau, surmonté des armes Morard d'Ars. Et comme j'ai dû le dire quelque part, cette porte a été franchie par Richelieu et Mazarin, et je l'ai appris récemment par Saint-François de Sales, hein, qui était venu, là j'ai écouté très récemment une conférence à Bivier sur Saint-François de Sales, et voilà, donc occupé par Abel Servien, et disons, lors de nombreuses pérégrinations des forces royales entre Grenoble et Turin, Mazarin est passé à plusieurs reprises, Richelieu également, et j'ai lu une brochure qui a été publiée par Roger-Louis Lachat, un chapitre consacré au château Servien, dans lequel il est précisé qu'il y avait une chambre, désormais chambre du cardinal, en souvenir du passage de Richelieu au château Servien. Voilà. Ceci dit, il n'y a pas de pièce qui puisse le démontrer, mais enfin, c'est tout à fait probable, eu égard au fait que Servien était un des plus proches collaborateurs de Richelieu.
Parce que du coup, il y a combien de pièces et combien de mètres carrés
Écoutez, là, je n'ai pas calculé, hein, mais vous verrez, il y a un site internet, châteauservien.fr, hein, mm-hmm. Et vous verrez l'importance du bâti. Il y a une grande façade, c'est un bâtiment en équerre. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage l'année dernière, fin septembre, à l'occasion du passage de marcheurs sur le pas des Huguenots, et avec un reportage de F. Rhône-Alpes, et avec des vues par drone. Ça dure 3 minutes et demie, ça donne une bonne idée de l'ensemble du bâti, mais il y a beaucoup de photos sur le site châteauservien.fr.
Et il y a surtout la possibilité de venir le visiter lors des journées du patrimoine, samedi 15 et dimanche 16.
Exactement. Exactement. Alors, comme j'ai dû vous le dire, ça, c'est pour les amateurs de grande histoire. Hein. C'est
oui.
une période qui était très, très, très importante, mais qui est assez peu connue. C'est cette période qui va de 1600 après l'assassinat d'Henri IV jusqu'à l'avènement de Louis XIV. C'est une période qui a permis à la France d'accéder au rang de première puissance européenne.
Oui.
Contre la maison de Habsbourg, qui associait à la fois disons, l'Autriche, le Saint-Empire romain germanique et l'Espagne.
Donc du coup, il faut quand même avoir un petit peu pris des renseignements avant de venir voir pour
oui.
pouvoir recontextualiser. Et
oui,
aussi...
exactement. Exactement. Alors, je vous précise qu'il y a donc des panneaux didactiques qui, en fait, reprennent toute cette carrière extraordinaire
oui.
et qui sont visibles sur le site châteauservien.fr. Et par ailleurs, j'ai publié, il y a 18 ans, donc une brochure d'une cinquantaine de pages qui est à la disposition, gracieusement, des visiteurs.
Eh ben...
Et je vous signale, par ailleurs, que est organisé à partir du week-end du 15 et 16, une exposition au château de Meudon, le château de Meudon au siècle de Louis XIV, autour de trois personnages, Abel Servien, Louvois et le grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui ont vécu et qui ont embelli ce magnifique château, qui n'existe plus malheureusement.
Ah oui. Alors, du coup, en tout cas, pour la visite, les visites, c'est libre.
Alors, c'est visite libre.
Le samedi.
Libre, donc, le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 12h, et de 14h à 18h.
Il y aura aussi voilà. une exposition de format réduit sur Abel Servien.
Ah ben oui, disons, il y a, est présenté donc les panneaux didactiques en format réduit, des panneaux qui avaient été présentés lors de l'exposition de l'année 2000, qui était très importante.
Mmh.
Et par ailleurs, je vous signale que la route départementale qui longe le parc du Château Servien a été baptisée en 2015 rue Abel Servien.
Ah, et ben voilà, on y arrive.
Et disons, rue Abel Servien du côté de Bivier, et cette route sépare Bivier de Montbonneau, et Comté-Montbonneau, curieusement, c'est rue Général de Gaulle. Voyez-vous, donc de Gaulle et Servien se font face à face.
Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup Augustin d'avoir été avec nous pour nous éclairer un petit peu plus sur ce personnage
oui.
historique et sur
oui.
le château où il est né. Donc rendez-vous
oui.
samedi 15 et dimanche 16 septembre pour visiter.
Exactement, et ils seront tous bien accueillis. Hein,
merci
voilà.
beaucoup, bonne
au
journée
revoir,
à vous, au revoir.
Au revoir.